France Culture. Bonjour Gaëlle Faye.
Bonjour.
On vous retrouve pour le deuxième épisode que j'ai intitulé « A français ». C'est évidemment une référence à la première chanson de votre premier album, « A France », où il est question d'exil et de métissage, et c'est ce dont nous allons parler pour ce deuxième temps de Nos Avoinus. On vous a quitté dans le premier épisode au moment où vous quittiez vous-même le Burundi, un pays en guerre, et un pays limitrophe du Rwanda où venait de se produire le génocide. En 1994, vous partez en 1995, vous avez 13 ans, et vous arrivez en France où vous retrouvez votre mère, après avoir été accueillie d'abord dans une famille d'accueil, puis vous retrouvez votre mère à Versailles, c'est ça ?
Oui.
Vous avez laissé votre père là-bas, ou votre père est parti avec vous ? Comment ça s'est passé ?
Non, mon père se disait que la guerre allait prendre fin, et donc il est resté. Puis la guerre a duré, je crois. Elle s'est plus ou moins arrêtée en 2003, donc plus de 10 ans après. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, le fait que mon père soit là-bas, que la maison soit toujours là, eh bien, j'ai eu du mal à m'intégrer en France parce que je me disais que j'allais repartir. Ouais, pendant longtemps.
Vous pensiez toujours repartir ?
Oui, pendant longtemps.
En fait, vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez là ?
Si, je comprenais, parce que la situation était... On avait quitté une situation trop dangereuse, trop violente. Et moi, j'avais peur de mourir. Je me souviens d'avoir dit à mon père que je voulais partir parce que j'avais peur de mourir. Et donc... après, nous revenions... Ouais, à peu près un été sur deux, nous revenions au Burundi. Enfin, on passait toujours par le Rwanda. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai découvert peu à peu le Rwanda. Parce que dans les premières années, donc, on allait rendre visite, comme on dit chez nous, rendre visite à la famille, qui donc n'était plus réfugiée. Elle était rentrée dans son pays après 30 ans d'exil, grâce au combat du Front patriotique rwandais, qui était cette armée composée d'enfants d'exilés tutsis, qui pendant des années avait demandé à revenir au Rwanda, au pouvoir d'Habyarimana. Habyarimana et le pouvoir rwandais de l'époque refusant le retour de ces réfugiés. Ces réfugiés ont décidé de revenir par les armes, et certains de ces soldats, certains de ces jeunes qui se sont battus pour rentrer dans ce pays, le pays de leurs parents, un pays souvent qu'ils ne connaissaient pas, parce que comme je disais, ma mère est partie, elle avait 3 ans, donc c'était vraiment une génération qui avait grandi dans le culte du retour au pays, d'un pays un peu fantasmé aussi, d'une certaine façon, Et donc je reviens en vacances dans ce pays complètement, enfin qui n'est même pas un pays, qui est un grand champ de désolation.
Mais votre mère, elle n'y retourne pas.
Non, je ne suis jamais allé au Rwanda avec ma mère.
Il n'a jamais été question pour elle de partir au Rwanda, comme une partie de sa famille était retournée au Rwanda puisqu'il n'était plus réfugié.
Je crois que pour ma mère, c'était évident qu'elle ne vivrait plus jamais dans la région. Elle ne l'a jamais formulé véritablement de cette façon-là, mais on pouvait le sentir dans ses réactions, parfois dans des souvenirs traumatisants qu'elle laissait transparaître dans des petits détails, que c'était une page qu'elle avait tournée. Alors que moi j'étais dans, et je pense ma sœur aussi, nous étions dans une recherche de nos origines. On était dans un manque, comme une part manquante de nous-mêmes, et le Rwanda était un grand vide. Quel était donc ce pays dont on parlait tant et qui pourtant était le berceau d'une partie de notre famille et qui nous échappait pourtant, qui nous échappait dans son histoire, dans sa violence, dans, dans tout ce qu'on en disait aussi, parce que voilà, on pouvait pas parler du Rwanda sans parler de la France, et ça aussi c'était quelque chose qui pour nous, en tout cas pour moi, j'ai pas envie de parler à la place de ma sœur, mais en tout cas pour moi, était très troublant, parce que mes parents ne s'étaient rencontrés par hasard. Le Rwanda n'était pas une colonie française. Je veux dire, si mon père avait été belge, peut-être que il y aurait une logique dans tout ça. Mais là, mon père passait par là, il a rencontré ma mère. Et pourquoi ? Pourquoi, en France, la question rwandaise était une question si politique, si terriblement polémique ? Et pourquoi, lorsque, par exemple, j'arrivais au Rwanda, je sentais, en présentant mon passeport aux militaires, à la douane, forme de rejet, d'un mépris, parfois même d'une haine ou dans les propos. Tout ça, ça a été aussi un long cheminement pour dénouer toute cette question de la présence de la France au Rwanda, de sa responsabilité dans le génocide à l'encontre des Tutsis. Donc il y a une intensité de l'expérience métisse qui se joue dans ces années pour moi, entre l'écartèlement entre plusieurs pays, se vivre en France et me dire qu'un jour, de toute façon, je retournerai au Burundi, et puis quand même pressentir que peut-être ça ne se fera plus, et puis arriver à chaque fois au Rwanda et être frappé par ce pays et sa condition, cette espèce de champ de désolation où tout le monde me semble traumatisé, où tout me fait peur. Et puis arriver pendant ces étés à Bujumbura pour donc aller rendre visite à notre père, passer les vacances là-bas et continuer à être dans des vacances complètement surréalistes, parce que voilà, c'est le moment où je suis ado, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, donc ça y est, je sors. Je vais en boîte avec les copains, les copines. J'ai l'impression qu'on est un peu adulte, mais on est encore quand même dans notre naïveté d'enfant, de jeune, et autour de nous, la guerre. Et on s'en accommode parce que, comme un peu des anciens combattants, on se dit qu'on en a vécu d'autres. Et donc, on passe des vacances dans un pays où il y a des embuscades, où il y a un couvre-feu, où il y a des mesures de sécurité, de précaution de sécurité à prendre. Mais voilà, c'était le Burundi de ces années-là. Et je me suis habitué aussi à cette espèce de normalité qui n'en est pas une, qui a fini par être la normalité de notre génération.
Votre quotidien, en tout cas.
Notre quotidien, et là, c'était un quotidien de vacancier, c'est-à-dire le vacancier qui vient, qui sait qu'il y a des camps de réfugiés à quelques kilomètres de la ville où on est en train de s'amuser en boîte de nuit. Voilà. Et donc, quand je rentrais à Versailles pour retourner au collège, au lycée, c'était comme si j'arrivais dans un autre monde. Et puis, bien sûr, j'arrivais dans un autre monde, mais c'est-à-dire un autre monde qui n'avait pas conscience de l'univers auquel j'appartenais par ailleurs.
Vous arriviez à en parler ou pas ? S'il y avait des copains, des copines ?
Non, je n'en parlais pas parce que ça n'intéressait absolument personne. Il n'y avait pas de questions. Je pense qu'il y aurait eu, il y avait plus de... On était beaucoup plus curieux du camarade qui était allé passer des vacances à New York ou à Nice que moi qui pouvais dire j'ai passé mes vacances à Bujumbura. Personne ne savait mettre cette ville sur la carte. Donc c'était un peu mon jardin secret avec ma petite sœur. C'est vrai qu'on... Et puis nos camarades avaient... Voilà... avec qui on gardait des contacts, soit par téléphone, soit par courrier. Mais c'est vrai que c'était comme deux mondes complètement séparés, imperméables. Il y avait la vie au Burundi, à Bujumbura, et la vie à Versailles. Ça ne se mélangeait pas. Ça ne se mélangeait que dans mes textes.
C'est ce que j'allais dire, c'est quand même un des motifs qu'on retrouve dans vos textes, dans aussi bien les chansons que les livres. Cet écartèlement dont vous parlez, dans Taxiphone par exemple, vous chantez arraché de mes racines comme brûlé à l'acide. Donc il y a la difficulté à être dans cet exil forcé que vous n'avez pas voulu. Et puis le silence dont vous parlez, c'est-à-dire à la fois le fait que vous posiez des questions qui atterrissaient dans le vide parce que votre mère ne parlait pas, donc le silence de votre mère d'un côté, qu'on retrouve évidemment dans Petit Pays, qu'on retrouve dans Jacaranda, beaucoup. Et puis en face, donc, ce silence autour de vous qui faisait que vous ne pouviez pas parler non plus de ce que vous viviez. Donc tout ça, c'est aussi cette matière ensuite qu'on retrouve dans votre écriture. Mais il y a autre chose à ce moment-là. D'ailleurs, juste avant de parler de cette autre chose que j'oublie pas, Yael Faye, il y a un mot que vous avez utilisé en fin d'émission dernière, la première, à la fin. Vous avez dit qu'il y avait des avions de rapatriement. Et ça m'a fait tiquer parce que vous avez été rapatrié. Or, quand on est rapatrié, c'est dans un pays qui est le nôtre, c'est notre patrie. La France, elle n'était pas encore, en tout cas. Donc, déjà, l'usage même du mot, vous qui êtes vraiment dans les mots, est-ce que vous avez tiqué comme moi ou est-ce qu'aujourd'hui vous tiquez encore en disant que vous avez été rapatrié ?
Oui, c'est encore une autre incohérence de mon parcours. C'est-à-dire que c'était le terme qu'on utilisait, hein, forcément,
c'est le terme consacré.
À l'école française. Hein, on disait, voilà, des avions de rapatriement. Et j'avais le passeport français. Enfin, c'était... voilà, je suis français, j'étais français, mon père était français. Comme je disais, j'ai grandi dans la culture française, la culture rwandaise. Elle était beaucoup moins présente parce que ma mère n'était pas là et que ma famille maternelle, bien que je la voyais chaque semaine à Bujumbura, pas suffisamment pour qu'elle me modèle et qu'elle compense qu'elle équilibre la part de français et de rwandais en moi. Et donc, il y a le rapatriement, c'est le retour à la patrie, mais d'une certaine façon, c'est une patrie que je connais théoriquement. J'ai les codes. J'arrive, j'ai les codes, je connais la langue, j'ai les références.
C'est pas un pays étranger pour vous ?
Pas un pays étranger. Ce que j'ignorais, c'est l'expérience vécue, la vie, le réveil le matin alors qu'il fait nuit. On s'est toujours réveillé, on arrive à l'école, le soleil est déjà bien brillant dans le ciel. Se réveiller, il fait nuit, il fait froid. Arriver à l'école, il fait encore nuit. Encore froid. sortir, il fait nuit. Rentrer à pied. C'est l'expérience du corps aussi. Moi, je l'ai vécu comme un exil parce que c'est se retrouver physiquement, c'est la France physiquement, c'est-à-dire que je peux imaginer ce que c'est la France par sa musique, par sa culture, par sa littérature, tout ça était en moi, mais qu'est-ce que c'est que vivre physiquement et par exemple, qu'est-ce que c'est qu'interagir avec les gens, quelles sont leurs réflexions, parce que finalement, les camarades français, franco-français, je veux dire, que j'avais à Bujumbura, étaient déjà des gens ouverts au monde, à l'altérité. Là, je me retrouvais avec des gens qui ignoraient totalement le monde d'où je venais. Et en plus de l'ignorer, peut-être que, et ça, je le dis aussi dans une de mes chansons, L'ignorance, c'est pas le plus difficile, c'est l'indifférence. Et ça, ça a été aussi une grande expérience que de ressentir cette indifférence. Que je n'avais jamais ressenti dans ma vie jusqu'à présent, parce que j'appartenais à un monde, à un lieu où voilà, j'avais ma place, il y avait un équilibre. Et là, c'est de me sentir comme invisible, de me sentir comme insignifiant, et parfois même de devoir me justifier d'être là. Et cette expérience-là, elle est particulière. Elle était particulière pour moi.
Vous dites indifférence, ignorance, indifférence. Dans certaines de vos chansons, on entend aussi parfois la condescendance à votre égard. Par exemple, dans Taxiphone, on me disait, tu sais, t'es sous-développé. Ou j'étais la risée de tout le collège. Petit déraciné. Ça va plus loin que l'indifférence, parfois.
Oui. C'est des expériences. Bon, déjà, je ne sais pas si on continue de l'enseigner comme ça. J'imagine que non, mais les pays sous-développés. Pendant longtemps, voilà, cours d'histoire géo, on parlait des pays développés et sous-développés.
Et au milieu, il y avait en développement.
Oui, et en développement. Donc c'est sûr qu'à chaque fois que quand je me retrouvais avec ce type de terme et que je voyais que l'endroit d'où je venais était considéré comme sous-développé, même si on a bien conscience qu'il s'agit de critères socio-économiques, mais on le prend personnellement. On le prend personnellement. Et puis oui, c'était petit Africain, c'est une façon de dire l'Afrique est un pays. Ta réalité, c'est la réalité du continent. Guerre, famine, misère, c'est pareil partout. Donc de ne pas pouvoir s'expliquer, parce que moi je n'avais pas conscience non plus de venir d'Afrique. J'avais pas une conscience panafricaine. Je venais d'un quartier, Kinanira, je venais d'une ville, Bujumbura. C'était ça, mon monde, mon environnement. Et c'était comme ça que j'avais envie d'être présenté ou de me présenter. Et donc, d'un coup, d'entendre des termes qui étaient là pour me désigner, africain, réfugié, sous-développé, ça, c'est des étiquettes que d'autres nous apposent et puis avec lesquelles on... Mais parfois, presque, on finit par se les accaparer pour retourner le stigmate, comme on dit. Et donc, je me suis, d'une certaine façon, éloigné de ma propre histoire parce que j'ai peut-être voulu être la façon dont on me décrivait, voulu être celui qu'on décrivait. J'ai voulu, par exemple, être noir à un moment donné. J'ai cru que j'étais noir. J'avais oublié que j'étais métisse.
C'est cette autre chose, effectivement, dont je parlais tout à l'heure. Vous devenez, en fait, noir soudainement.
Oui.
Parce que vous disiez que vous étiez blanc, là-bas, oui. Au Burundi.
Muzungu.
Muzungu.
Oui.
Et là, vous devenez noir.
Et là, je deviens
noir. Dans le regard
noir.
Des autres.
Je deviens noir et je finis par accepter cette position. C'est-à-dire que... Par accepter parce que me battre contre ça, c'était trop épuisant. Donc je finis par complètement embrasser cette identité noire, me tourner aussi vers toute cette culture que j'ai l'impression qu'on dévalorise pour la revaloriser à travers la littérature, la musique, voilà, toutes les cultures issues des mondes noirs. Et finalement, c'est peut-être un détour salvateur. Parce que dans la réflexion des cultures noires, il y a toujours la réflexion de l'altérité, la réflexion de la conscience de qui nous sommes, de l'affirmation de qui nous sommes. Donc, passer par ces cultures-là, ça m'a permis d'éclaircir ma position. Enfin,
d'éclaircir, de... C'est ça qui vous permet de dire après, l'humanité est colorée, donc soyons daltoniens. C'est-à-dire on a conscience des couleurs et de ce que ça veut dire. Et donc maintenant, on devrait être capable de faire fi.
Oui, c'est-à-dire que je veux pas dépolitiser la question de la... Je dis pas des races, de la race, parce que la race existe. Les races n'existent pas, la race existe.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que nous sommes dans un monde... Qui est le fruit de la colonisation, de l'esclavage, dans des sociétés qui sont le fruit de... Et donc, la question de la race est présente comme la question du genre, comme les questions sociales. On ne peut pas faire comme si être noir avait la même incidence qu'être blanc dans une société. Mais ce que je dis par cette rime-là, c'est un peu ce que tentent de dire certains penseurs noirs, c'est comment nous allons vers l'autre dans son humanité. Comment on finit par... c'est une utopie, hein, c'est un mouvement utopique, mais comment on arrive à se départir de nos appartenances pour toucher l'autre dans son humanité, pour approcher l'autre dans son humanité. Et c'est toute la démarche de ma vie, tout simplement parce que j'ai la chance d'appartenir à deux mondes qui se voient antagonistes et que j'en suis un trait d'union. Et donc je suis dans cette démarche-là. Mais ce qui ne m'empêchera jamais de rester lucide sur cette réalité qui est là.
Lucide, ça veut dire ce que vous écrivez, ce que vous chantez. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité, c'est de la boue en vérité. C'est pas un jugement, c'est dire c'est pas une solution à la bêtise, c'est une richesse, mais c'est pas une solution à la bêtise. Donc vous vous voilez pas la face, c'est ça.
Ouais. Donc c'est vrai qu'on a toujours envie d'avoir une solution toute faite pour aller vers un monde qui serait débarrassé de tous ces antagonismes, de toutes ces haines, de tout ce racisme. Bon, malheureusement, on peut pas y arriver comme ça, et on n'y arrivera peut-être jamais. Mais travaillons pour. Voilà, dans cette démarche d'utopie, et ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par apprendre à se parler, à se connaître. Encore une fois, je crois vraiment que la position d'un enfant métis qui arrive à avoir toujours ce regard en contrepoint et toujours de vivre ici et là, on en apprend sur ces incompréhensions, sur ces impossibilités à se parler, sur tous les moments où les gens pensent dire la même chose mais ils ne se comprennent pas.
Cette incommunicabilité.
Oui. Donc j'en suis très, très conscient. Vraiment, c'est quelque chose dont j'ai conscience et ça c'est enrichissant et fatigant en même temps.
Ça va mieux aujourd'hui, Gaëlle Faye ?
Sur certaines questions, oui.
Pour vous, je veux dire.
Oui,
pas
non,
la société,
mais oui. Oui, pour moi, oui, ça oui et non.
La composition de cette double identité.
En tout cas, sur la question noir et blanc, j'ai plus du tout ce sentiment de tiraillement. Sur la question français et rwandais, ce n'est plus douloureux. Je l'ai toujours, mais ce n'est plus douloureux parce que il y a eu un travail, politique qui
aussi de reconnaissance, de la responsabilité, de la France.
Exactement, tout à fait. Et donc je peux maintenant parler avec des Français, sans avoir l'impression de d'essayer de d'être, enfin sans avoir cette ce sentiment de dire quelque chose qui leur paraîtrait complètement absurde ou vécu comme une attaque personnelle quand des officiels français se drapaient dans l'honneur de la France, une façon de silencier la parole des Rwandais qui disaient mais si ce que l'on a vécu, on l'a vraiment vécu. Et lorsqu'on vous dit que votre pouvoir ou vos militaires ont fait ces choses-là dans notre pays, c'est une réalité. Pendant longtemps, c'était comme si c'était ma parole contre la vôtre. Et c'est difficile d'être dans cette position quand tout est là pour dire ce qui a été et qu'en face on ne le reconnaît pas, voilà la reconnaissance. Et donc c'était une douleur d'identité, parce que comment faire en sorte de me sentir pleinement français et pleinement rwandais quand les deux pays ne se parlent pas. Donc je n'ai plus ça, mais je reste. Voilà, je reste vigilant et je reste à l'écoute du monde dans lequel je vis, ou qui est traversé toujours par tant d'incompréhension et tant de guerres et de violences, et ça continue de m'affecter.
Ouais. C'est peut-être aussi pour ça que il y est tant question de métissage, d'évasion, d'exil, de départ dans votre œuvre, en tous les cas dans un certain nombre de chansons. Ça vient peut-être aussi de là. Alors, vous avez dit au départ de cet épisode, Gaël Faye, que vous aviez envie de partir. En tous les cas, quand vous êtes arrivé en France, vous aviez vraiment des besoins de partir, justement de vous évader. Alors, il y a l'évasion dans la tête, et puis il y a partir en vrai. Mais vous n'êtes pas parti là où vous vouliez nécessairement partir, vous êtes parti à Londres. Et c'est ce que nous verrons dans le début de l'épisode suivant, l'épisode 3, ce passage londonien pour mieux arriver ensuite à la musique. Merci et à demain.
Merci.
À suivre l'épisode 3, Fils du hip-hop. C'était À Voix Nue avec Gaël Faye, réalisation Gaël Gilon, prise de son Corentin Bailly, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.